C'est le prologue d'une guerre, le prélude de longues années de souffrance. Le ciel est gris, l'avenir aussi. Il pleut des filets de fer qui explosent au contact du sol et les rares oiseaux, esselés, impétueux, qui prennent leur envol et traversent aventureusement ce ciel pluvieux sont faits de métaux et tous, équipés de bruyants moteurs. Ces oiseaux sont meurtriers, assassins, ces oiseaux sont bombardiers. Au sol, celles et ceux qui passent dans la rue ne sont plus des riverains. Ils sont devenus des soldats, des prisonniers, des innocents ou des morts. Les boulangers ne sont plus des boulangers. Ils sont des soldats. Les bouchers ne sont plus des bouchers. Ils sont des soldats et leurs femmes, quant à elles, ne sont plus leurs femmes, mais leurs veuves. Les enfants, eux non plus, ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ont perdu, au milieu des ruines, des plaines de jeux et des écoles, tout ce qui les caractérisait, soit l'innocence, l'enthousiasme, la gaieté, la naïveté et le sourire. Ce même sourire qui, peu à peu, comme un gaz, s'étiole au-dessus des gravats. Les façades, qui peinent à rester encore debout, sont aveulées de noir. Les ruines présentent de sordides stigmates. Même le soleil est devenu gris. Il a donné sa couleur à la fièvre typhoïde qui tente de faire autant de ravages que les canons. Au loin, résonne le fracas de la mort qui traverse le village comme une rumeur qui tue en masse et réduit les villes ainsi que leur population en un fatras de chair et d'eau épars. Mesdames, messieurs, membres du jury, bonsoir. Le contexte atterrant que je viens de vous dépeindre est non celui de la guerre mais d'une guerre parmi d'autres et qui, comme beaucoup, est la conséquence d'un nationalisme radical, extrême, exacerbé. Une guerre dont les envahissants rhizomes ne prennent pas racine dans la sémantique du terme « nation », mais s'ancrent plutôt dans l'ambition qu'elle possède d'imposer son mode de vie aux autres nations, concurrentes et concourantes. Imaginez, visualisez, voyez cet homme conduit dans tout Paris à l'arrière de sa Citroën DS19. Elle file bon train dans la capitale. La voiture pénètre nombre de rues et avenues, elle brise la circulation déjà fort dense à l'époque. Là, Anne Hidalgo n'y était pour rien. Le ciel est bas et lourd, l'atmosphère revigorante mais viciée. Entendez ces semelles écraser le gravier de la cour d'honneur de l'Élysée et voyez sur le côté les archers chatouilleurs se dresser, les joues des trompettistes se gonfler et entendez cette Marseillaise entonner. Puis, surtout, imaginez. Imaginez cet homme, le général de Gaulle, dire ce qu'il a plus tard écrit. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Ah, quelle éloquence, quelle puissance verbale, quelle verve saisissante! Assez parlé de moi. Revenons au nationalisme, oui, le nationalisme, cette hyperbole du sens du mot nation, de ce peuple rassemblé. Le nationalisme, cette théorie qui, comme me le rappelle mon ami Robert, affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation ou par rapport aux autres nations de la communauté internationale. J'ai fait la même tête. Le nationalisme qui, comme l'a écrit Charles de Gaulle, consiste à détester le pays des autres. On ne peut pas détester un pays, non. On ne peut pas détester quelque chose d'immatériel. L'on déteste ses valeurs, son dirigeant, son peuple ou les nationalistes de ce pays, mais non le pays en lui-même qui n'est, en réalité, que d'abstraites frontières. Un nationaliste est quelqu'un de fier, quelqu'un qui, s'il juge que sa nation ne va pas dans le sens qu'il croit être le bon, n'hésitera pas à s'efforcer de lui faire changer de direction. À l'inverse du patriote qui, toujours, quoi que fasse la terre de ses pères, la suivra, bille en tête. Après cela, un nationaliste sera, comme d'après De Gaulle, et je le répète, quelqu'un qui déteste le pays des autres. Quelqu'un d'aussi fier que le nationaliste, je pense, ne peut pas détester celui des autres, car c'est probablement en être jaloux. Et donc, insatisfait du sien. Pourquoi ne pas alors parler d'ignorance plutôt que d'exécration, plutôt que de détestation? À moins que De Gaulle, par détestait le pays des autres, entendait les apprécier moins que le sien. Faire la guerre à un autre pays, au nom du sien et des valeurs qu'il véhicule à tout d'incohérent, et constitue la pire des insultes que l'on peut faire à sa contrée. Faire la guerre au nom de son territoire, l'entache, l'avilie, le gâte, l'affecte, le profane, ipso facto. Et si, en fait, le nationalisme ce n'était pas la guerre, la haine de l'autre? Et si le nationalisme n'était pas ce qu'en font aujourd'hui les partis extrêmes, mais une excroissance, une dérive du patriotisme? Le patriotisme qui aime son pays. Aimer son pays, ce n'est pas le ceinturer de murs. Aimer son pays, ce n'est pas le garder par égoïsme, c'est le partager. Aimer son pays, c'est être fier d'y accueillir de nouveaux venus, de partager ce lopin de terre, de le promouvoir. Aimer son pays, c'est être fier d'y voir apporter des produits venus de tous horizons. Mesdames, messieurs, sans doute l'aurez-vous remarqué, il n'y a pas que les hommes qui sont en guerre. Les mots aussi, et ceux que je répète sans cesse depuis tout à l'heure le sont particulièrement. Ils se battent, ils sont en conflit, un conflit de sens qui montre la congruité de la langue française. Innombrables sont celles et ceux qui accordent un lien synonymique à ces deux termes. Ils n'en possèdent aucun, et De Gaulle, en les opposant, ne fait guère cette inexactitude. Il n'empêche toutefois que cette opposition est trop importante que ce qu'elle est réellement, car une simple nuance les différencie simplement. Le problème de cet aphorisme est, selon moi, qu'il est incomplet. Et j'ose le dire à ce grand monsieur, il y a un oublié dans tout cet embrouillamini, le chauvinisme. Et c'est dans la définition du chauvin que l'on trouve cette agressivité, cette haine de l'autre qu'évoquait De Gaulle en parlant du nationalisme. Et chauvin ou chauvine, celui ou celle qui a ou manifeste un patriotisme excessif, aveugle, intransigeant ou agressif. Un patriotisme agressif. Le plus agressif dans l'histoire serait donc le patriote, ce bon vieux patriotard. La boucle se boucle, la citation se change. Le patriote et le nationaliste aiment tous deux leur pays en le montrant de façon différente. Le chauvin, patriote à l'excès, déteste celui des autres au profit du sien. Mesdames, messieurs, j'aime mon pays. Mais ce n'est pas pour cela que je me sens soulevé, emporté par une permanente fougue patriotique, nationaliste ou chauvine. Mais pour vous parler de chauvinisme, je me suis donc mis dans la peau d'un chauvin. Cela a été, je l'avoue, pour moi, le meilleur des régimes, plus efficace que Weight Watchers, fini les McDonald's. Et donc, pour être chauvin jusqu'au bout, j'ai, dans ma bibliothèque, ôté tous les écrits d'auteurs qui n'étaient pas belges. Puis, je me suis rendu compte que cette bibliothèque même, la Gnedi, tout comme le reste de mes meubles, Askvoll, Bekestua, Tara, Leirvik, Espevar, devraient eux aussi passer à la trappe, car ils n'étaient pas belges, mais suédois, pour ne pas citer la marque qui est Ikea. Puis, l'effort creusant mon estomac, je me suis dirigé vers mon frigo et je suis resté devant lui, fixant ce fromage de herbe et ce bouddha d'eau belle qui, eux aussi, semblaient poser sur moi un regard ascardamite. Dehors, le ciel s'illuminait d'un fourmillement d'étoiles. À l'intérieur, je me suis retrouvé dans un chez-moi sans meubles, entouré de night shops tenus par des Pakistanais dans lesquels je ne pouvais même plus aller chercher ce paquet de chips qui dépanne lorsque, à l'apéro avec des amis, les bols se tarissent plus vite que prévu. Je n'avais rien d'autre à faire donc que de penser, et j'ai pensé. Penser à tout cela, songer encore une fois au patriotisme, au nationalisme, au chauvinisme. Songer à Charles de Gaulle. Et si Charles de Gaulle avait dit cela comme ça, pris par une fougue? Et s'il avait ignoré les définitions instaurées par son académie? Et s'il avait dit cela avec partialité, lui qui a, dans son pays, je le rappelle, combattu le national-socialisme? J'ai aussi songé à cette guerre dont je vous parlais en exorde. Et si elle était l'œuvre, le sanglant tableau de nationalistes défendant leur pays par patriotisme? Et si ces soldats étaient simplement des chauvins nationalistes se battant par patriotisme? Ou des patriotes nationalistes se battant car ils sont chauvins? Sinon, des patriotes chauvins? Bref. Aimez votre pays, oui. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, faites l'amour, pas la guerre. Je vous remercie.
Quand de vous informer, c'est avec quel support ? La presse écrite, la TV, la radio, le smartphone ? Expliquez votre choix.
Eh bien, c'est dans les livres que je trouve et que je puise cette inspiration qui, peut-être, devant vous, me fait briller davantage que dans le quotidien. J'aime les livres. Un livre, c'est un format, des pages, une douceur, une saveur. Un livre, c'est une odeur particulière. C'est une saveur. Un livre, c'est une symphonie, c'est un nouveau monde, un beau, un vrai monde, dans l'irréel. Alors, oui, je vous l'accorde. Tous les livres ne sont pas beaux. Regardez Jeanne Le Pertuis-Dévot dans Une vie. Regardez Thérèse Raquin dans Thérèse Raquin d'Émile Zola. Regardez Emma Bovary dans Madame Bovary. Certes, oui, c'est l'œuvre éponyme presque. Certes, elles n'ont pas eu une belle vie, mais moi, je pense que ma vie sera plus belle grâce à ces livres. Je vous remercie.